Bon, bah, je vous propose d'entamer cette dernière conférence du cycle « Quelle éducation pour quelle société ?» en parlant cette fois de quelque chose qui m'est plus proche que les dernières conférences. Je m'étais mis comme ça un plan de travail pour avoir l'occasion de lire des auteurs que je ne connaissais pas trop, comme John Dewey et la Foi. Là, je vais vous parler de quelque chose que je connais beaucoup mieux depuis beaucoup plus longtemps, qui est la philosophie pour enfants, la philosophie à l'école avec des petits à partir de 5-6 ans. Alors je ne sais pas si c'est un gage, en fait, le fait que je connaisse assez bien et depuis pas mal d'années cette pratique-là, parce que parfois on n'a plus cette capacité d'expliquer pédagogiquement ou on est tellement plongé dans une pratique que c'est difficile d'en parler en réussissant à décomposer les enjeux, les obstacles, ou que sais-je. Donc je vais essayer de faire ça. N'hésitez pas à m'interrompre, peut-être que j'oublie des pans énormes, peut-être que vous avez entendu parler d'une chose ou l'autre dont je ne parle pas du tout. C'est possible, on a plus de points aveugles, je crois, quand on arrive moins frais, disons, sur un domaine qu'on connaît bien. Donc voilà, philosopher avec les enfants, comment, pourquoi, quels enjeux, ce sera le thème de ce soir. Alors d'abord un mot sur Lippmann, Mathieu Lippmann, qui est celui qui a lancé un peu on pourrait dire la mode, parce que c'est presque une mode aujourd'hui, la mode de la philosophie avec les enfants. Alors Lippmann, c'était un prof d'université aux États-Unis, à l'université Montclair, prof en logique et qui avait en face de lui des étudiants qui avaient une bonne vingtaine d'années et qui se rendaient compte qu'en fait c'était trop tard pour faire des cours de logique. Ils pouvaient très bien réussir un examen de logique parce qu'ils étudiaient, parce qu'ils appliquaient mécaniquement un certain nombre de règles de raisonnement formelles, mais ça ne structurait pas autrement leur pensée. Ils réussissaient un cours de logique, point, et puis ils classaient, et ça n'avait absolument rien changé dans leur mécanisme de pensée. Donc ce que s'est dit Lippmann après un certain nombre d'années d'enseignement et un peu désabusé, c'est qu'il fallait absolument commencer beaucoup plus tôt pour avoir une emprise beaucoup plus structurelle sur les processus de pensée. Donc il a établi une sorte de programme de philosophie qui devait couvrir tout le cycle du primaire et du secondaire, donc de 6 à 18 ans, et qui était structuré de la façon suivante. Lippmann a écrit avec sa collègue Anne-Margaret Sharp un certain nombre de romans philosophiques, 7 au total, autour de thématiques qui vont de l'amour, l'amitié, aux thématiques plus sociales et politiques pour les enfants plus âgés, pour les adolescents. Effectivement, il était assez, il s'appuyait sur Piaget et les stades de l'intelligence de Piaget, en même temps qu'il s'appuyait aussi sur une certaine connaissance, disons, des thématiques susceptibles d'intéresser les enfants selon l'âge auquel ils arrivaient, pour écrire ses romans. Alors, ce sont des romans philosophiques. Ça veut dire qu'ils mettent en scène sous une forme de dialogue des personnages qui ont l'âge plus ou moins du public auquel ils s'adressent, mais que ces romans sont philosophiques parce qu'ils véhiculent finalement non seulement les grands problèmes philosophiques, les grandes questions sur la connaissance, sur la liberté, sur la vie et la mort, enfin que sais-je, les grands problèmes philosophiques sont un peu abordés avec les grandes tensions qui s'offrent dans l'histoire de la philosophie entre des courants différents qui offrent des alternatives dans ces questions, ces grandes questions existentielles, mais de façon cachée, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'exposer la philosophie de Platon, d'Aristote, de Descartes, etc., mais de voir comment ces philosophes offrent certaines réponses à ces questions existentielles et de les faire incarner par des personnages qui sont très jeunes et qui se posent des questions et qui font des hypothèses et qui se contredisent et qui cheminent comme ça dans un dialogue, qui cheminent pour trouver des réponses plus ajustées. Ce programme de philosophie pour enfants a eu un impact retentissant, disons que aujourd'hui à peu près partout dans le monde, sauf peut-être en Afrique, qui de ce point de vue-là est resté hermétique, disons, à la philosophie. Il y a un enseignement philosophique, mais un enseignement philosophique académique, mais il n'y a pas de pratique de philosophie pour enfants en Afrique. À peu près partout dans le monde, il y a des héritiers de Mathieu Lippmann. On retrouve ça, disons, depuis... Lippmann, c'est dans les années... C'est fin des années 60, son premier roman philosophique. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, je dirais qu'il y a partout des centaines, des milliers d'enfants qui sont concernés maintenant par cette méthode spécifique de philosophie. Je viendrai un peu après avec qu'est-ce que ça peut signifier faire de la philosophie avec les enfants, quelles en sont les difficultés, quels en sont les partis pris, etc. Pour l'instant, je vous brosse quelque chose de plus superficiel, disons, sur le destin de Lippmann et de la philosophie pour enfants. Il y a d'autres pratiques qui sont venues se greffer, qui sont venues s'ajouter. Comme toujours, quand quelque chose commence à marcher, quand quelque chose mobilise des énergies, des enthousiasmes, il y a des courants alternatifs qui se créent. Donc il y a Lippmann qui est un premier courant qui est très centré autour de deux enjeux principaux. C'est un enjeu démocratique, comment, dans la lignée de John Dewey, faire de la philosophie collectivement en essayant d'insister sur les phénomènes de coopération, comment réussir à faire coopérer des enfants qui n'ont pas du tout les partis pris de la coopération, qui ont plutôt tendance à se référer seulement à eux-mêmes, qui ont plutôt tendance à vouloir dire ce qu'ils pensent comme ça, sans s'intéresser particulièrement à ce que disent les autres du même âge. Donc comment réussir à les rendre conscients des exigences de la coopération, à leur donner envie de coopérer et à les rendre de plus en plus aptes à la coopération. Donc ça, c'est le premier enjeu démocratique, disons. Le deuxième enjeu philosophique est centré finalement autour de ce que Lippmann appelle les habiletés de pensée. Alors c'est quoi les habiletés de pensée ? C'est une sorte, on pourrait dire, d'impensée de la philosophie académique. Quand on fait de la philosophie à l'université, en général, ce qu'on fait, c'est de l'histoire de la philosophie. On passe en revue les grandes théories, les grandes doctrines, disons. Ça peut être aussi une histoire problématique de la philosophie autour d'une question, voire des thèses différentes s'affronter. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est rendre conscient, c'est-à-dire rendre explicite tous les mécanismes de pensée qui sont en jeu quand on fait de la philosophie. Donc ce qu'a fait Lippmann, c'est essayer d'isoler un certain nombre de compétences qui sont travaillées dans la philosophie. Alors qu'est-ce que ça peut être ? On pourrait dire argumenter, voilà une de ces compétences évidentes, c'est-à-dire soutenir par un ensemble de raisons la position qui est la sienne. Mais voilà, ça reste encore vague. On peut faire bien d'autres choses quand on défend un avis, par exemple. Déjà, on peut non seulement défendre un avis, mais on peut aussi émettre une hypothèse. Et c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence entre faire une hypothèse dans ce « et si », c'est-à-dire un effet de décollement. C'est pas que j'affirme un truc que je veux défendre, c'est que je vais faire une hypothèse. Déjà, rien que ça, rendre un enfant conscient qu'il n'y a pas simplement la possibilité d'affirmer son avis, mais de faire de son avis une hypothèse qui va gouverner une recherche. Déjà, rien que ça, il y a tout un trajet qui est effectué et qui permet une distance par rapport à ce qu'on pense. De façon globale, la conscience des habiletés de pensée, ce sera toujours l'envie d'opérer cette distance qui permet d'évaluer ce qu'on dit, ce qu'on fait quand on prend la parole dans une discussion. Les autres habiletés de pensée, donner un exemple. Les enfants ne cessent de donner des exemples, c'est-à-dire ne cessent de s'appuyer sur leur vécu individuel singulier. Ils commencent presque chacune de leurs phrases dans une discussion, dans une discussion philosophique, par exemple. Sauf que, vous voyez qu'il y a une grande différence entre commencer une phrase par exemple et avoir conscience qu'on est en train de s'appuyer sur un exemple. Alors, ça veut dire que si on a conscience qu'on s'appuie sur un exemple, on a aussi conscience du statut épistémologique de l'exemple. C'est-à-dire qu'un exemple, ce n'est rien qu'une situation singulière qui vient à l'appui d'une thèse plus générale et qui ne peut pas la prouver. c'est pas un exemple. Un exemple, c'est rien qu'une situation qui vient illustrer, mais évidemment, il y a un écart entre une situation singulière et une règle générale. Il faudrait une addition de situations singulières pour que la règle générale puisse commencer à avoir un certain fondement. Un contre-exemple, c'est pas du tout la même chose. Si vous faites une affirmation générale, il suffit qu'il y ait un seul contre-exemple pour que votre affirmation générale soit invalidée. Mais voilà, c'est comment rendre des enfants dès le plus jeune âge conscients de tous ces processus de pensée. Avec un enjeu égalitaire déterminant qui n'est absolument pas retrouvé dans la philosophie académique, c'est que dans la philosophie académique, comme tout ça est caché, implicite, ce sont les élèves qui ont les codes, c'est-à-dire les élèves qui viennent des bonnes familles, des familles qui ont un certain capital culturel, qui sont capables d'être conscients de leurs opérations de pensée et qui sont capables, par mimétisme, finalement, de reproduire les habiletés de pensée qui sont utilisées par les profs quand ils font un cours ex cathedra. Ça demande toute une capacité de décodage, de voir les éléments déterminants que n'ont pas ceux qui viennent de milieux sociaux où ça va moins de soi. Or, réussir à l'université, on pourrait dire même pas simplement en philosophie, à peu près dans toutes les disciplines, vous réussirez beaucoup plus facilement à l'université si vous avez cette distance qui vous permet d'annoncer ce que vous allez faire. Un étudiant qui commence une phrase à un examen oral par « il y aura trois points dans mon exposé, je vais commencer par soutenir une thèse, puis je vais essayer de voir quelles sont les objections que je peux lui formuler, et ensuite je verrai comment on peut passer au-delà de ces objections », c'est quasiment gagné. Un étudiant qui est capable de ça, c'est sûr qu'il a mille années-lumière d'avance sur un étudiant qui, le nez collé sur la matière, n'a pas distingué l'essentiel de l'accessoire, n'a pas de distance par rapport à ce qu'il fait, et n'a pas de conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc en fait, en explicitant, en exposant de façon tout à fait claire les processus de pensée, ce que voulait faire Lippmann, c'est aussi une œuvre finalement d'égalité, d'égalisation. Il n'y a plus besoin de venir d'un milieu qui vous donne les codes, parce que les codes, on va les exposer, on va les expliciter, on va les déplier. Alors, je vous disais, Mathieu Lippmann, communauté de recherche philosophique, ça c'est un courant. Il va y avoir une série d'autres courants dont je dis juste un mot. Il y a d'abord Tozzi. Tozzi, c'est la discussion à visée philosophique et démocratique. Tozzi vient de Montpellier, prof d'université, philosophe de formation, doctorat en philosophie, mais prof en didactique de la philosophie, c'est-à-dire dans une faculté de pédagogie. Or, au passage, il y a des enjeux de pouvoir évidents et des enjeux de lutte institutionnelle derrière ça. Par exemple, il va de soi que Tozzi ne pouvait pas, en France, être dans une fac de philosophie. Il y a une sorte de rupture complète en France entre la philosophie académique, qui fonctionne selon un certain prestige de la discipline, et ce prestige est lié à une certaine complexité. Donc on ne peut pas philosopher à 6 ans, on ne parle pas de la même chose. Donc une rupture entre la philosophie académique et les pratiques de philosophie pour enfants, qui peuvent éventuellement être accompagnées d'une recherche universitaire, mais pas dans les facs de philo, dans les facs de pédagogie. De façon générale, on peut dire que c'est vrai aussi pour la Belgique, hélas, je dirais. La didactique de la philosophie est complètement négligée, on pourrait même dire la didactique de toutes les disciplines. On s'intéresse à la didactique quand on a des enfants en face de soi, éventuellement des ados et encore. Je veux dire, à partir du moment où ils ont 15-16 ans, c'est quand même d'abord la formation dans les matières qui compte, et pas du tout la formation didactique, c'est-à-dire la formation qui vous dit comment apprendre à apprendre. Comment apprendre à faire de la philosophie ? Voilà une chose qu'on apprend à peine et qu'on apprend de moins en moins pour la raison très structurelle que les postes de didactique commencent maintenant à être plus ou moins éliminés. Dans chaque université, on les réduit. C'était un poste quand moi j'y étais il y a 15 ou 20 ans. Maintenant, c'est un demi-poste à Liège. Voilà. Et c'est très représentatif de ce qui se fait à peu près partout. On considère que la philosophie n'a pas à avoir de didactique. Elle est à elle-même sa propre didactique. Allons lire Platon et on apprendra à philosopher. Mais vous voyez à quel point c'est élitiste. c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas faire ça, qui, ça leur tombe des mains, Platon, il y a encore Platon, on n'a pas été chez Kant, eh ben tant pis pour eux. On ne va pas chercher les chemins qui rendent l'accès possible à la philosophie. Alors moi, je trouve ça particulièrement problématique pour une discipline comme la philosophie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on exclut, je ne sais pas moi, 99,5% de l'humanité de la possibilité de faire de la philosophie par principe, c'est-à-dire par façon de faire? Je ne sais pas. Il me semble qu'une discipline qui a pour objet, on pourrait dire, l'acquisition de l'esprit critique, la capacité d'analyser avec une certaine distance sa propre vie et la situation dans laquelle on se trouve impliqué, y compris dans ses enjeux sociopolitiques, et donc d'être un citoyen dans un sens plein du terme, c'est-à-dire capable d'un regard critique, d'un regard distant par rapport aux politiques, par rapport aux décisions qui peuvent être prises. Si on imagine qu'on peut se réduire à ce 0,5% en se disant bah, « c'est pas grave, tant pis », ouais, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment problématique sur la définition même de l'enjeu de la philosophie. À quoi sert la philosophie? Quelle est sa fonction sociale si la façon de faire de la philosophie exclut de fait 95% des gens ou davantage? D'où la volonté pour moi et un petit nombre d'autres personnes autour de créer une association, de plus faire de la philosophie uniquement académique et de se dire mais non, on peut pas passer une vie à être un super spécialiste de quelque chose en philosophie, particulièrement en philosophie. La philosophie, elle doit avoir un rôle social, mais pour qu'elle ait un rôle social, ça demande un certain nombre d'enquêtes faites sur la didactique de la philosophie. Par quel chemin est-ce qu'on peut faire de la philosophie? Par quel chemin est-ce qu'on peut prendre plaisir à faire de la philosophie? Ça va pas de soi. Pourtant, s'il n'y a pas de plaisir chez un jeune enfant de 5-6 ans, c'est mort. Et comment est-ce qu'il pourrait prendre plaisir à ce qu'on lui fasse un cours de philosophie? C'est impossible, absolument impossible. Donc il va falloir trouver des façons de combiner le plaisir de la recherche, le plaisir d'être un interlocuteur valable sur une question qui dépasse le 4 heures ou la cour de récréation, d'être considéré comme quelqu'un dont on va requérir la vie, le plaisir de parler avec les autres du même âge, tout ça, s'appuyer sur ce type de plaisir pour commencer une petite œuvre d'être pensant. Alors, je ne sais plus du tout où j'en étais, mais c'est normal. Ça fait partie des risques de ce type de conférence où je parle un peu, disons, avec mon cœur. J'en étais à Tozzi. Oui, j'avais dit... Pourquoi je parlais de ça, moi? Oui, voilà, Tozzi. Enfin, oulala, c'est le chemin. Je parlais de Tozzi et je parlais du fait qu'il n'était pas dans une fac de philo, mais dans une fac de didactique de la... de la pédagogie, en fait, une fac de pédagogie, voilà. Bref. Alors, un petit mot sur les dispositifs de Tozzi. Tozzi, même enjeu double, démocratique et philosophique. Je vous dis, ça va vraiment avec l'essence de cette didactique de la philosophie. C'est de toujours considérer qu'on a un rôle social comme philosophe et que ce rôle social, c'est de former des citoyens et donc de s'adresser à tout le monde et dès le plus jeune âge. Alors lui, c'est selon une procédure qui distribue des rôles, c'est-à-dire qui essaye de remettre autant que possible les clés de la discussion philosophique aux enfants eux-mêmes. Alors ces rôles, ils sont de deux ordres. Il y a les rôles qui permettent la parole collective, parce que ça ne va pas du tout soi de dicter ensemble. Si on organisait ici une discussion, ça vaudrait la peine, et moi je fais ça parfois en formation, quand je forme des profs secondaires avec des adultes, c'est encore plus amusant, de voir quels sont les mécanismes de la discussion libre. Alors je pourrais demander à un certain nombre d'observateurs de vérifier un certain nombre de choses sur l'égalité, le langage non verbal, les jeux de pouvoir entre les timides et entre les forts en gueule, vérifier la mythologie de la femme bavarde. Par exemple, est-ce que c'est vrai que les femmes prendraient la parole beaucoup souvent, beaucoup plus longtemps, qu'elles seraient comme des pies, tout ça, ou bien pas du tout, l'inverse. Donc vérifier un certain nombre de fonctionnements naturels de la discussion pour sortir de l'idée, que discuter ça se fait naturellement, ça ne s'apprend pas. En fait, on verrait qu'il y a énormément d'obstacles à la discussion, à commencer par le fait qu'on ne s'écoute absolument pas, donc tout le monde parle en même temps, qu'on se fiche pas mal de savoir ce que les autres disent. Alors évidemment, si on ne travaille pas là-dessus, ça ne sert à rien de discuter avec les autres, autant effectivement être seul devant son livre ou en conférence à écouter le seul qui parle, parce que tout prendre, c'est quand même pas plus mal. Donc vérifier, voilà, ces mécanismes de la discussion qui sont vraiment des obstacles. Donc il faut travailler là-dessus, et on travaille là-dessus, alors chez Todi, avec un certain nombre de rôles. Il y a le rôle du président de séance, qui est celui qui distribue la parole, et qui la distribue en respectant un certain nombre aussi de règles, de priorités. Priorité, on note l'ordre des levées de main, puis on donne par contre la priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé beaucoup. On veille au climat de la discussion. On rappelle qu'on ne se coupe pas, on ne prend pas la parole sans la demander. Voilà. Et c'est un enfant qui fait ça. Et ça change tout. Plus ce sont les enfants eux-mêmes qui sont conscients et qui ont les responsabilités, plus c'est considéré effectivement être des dispositifs d'apprentissage. On peut imaginer, et nous on termine nos cycles d'atelier philo chez les enfants, on peut imaginer qu'il n'y ait plus du tout d'adultes. C'est-à-dire que finalement, on est formé, les enfants, à l'animation d'une communauté de recherche, ou d'une discussion à visée philosophique, parce qu'on leur a donné chacun des rôles qui doivent être exercés et qu'ils ont eu l'occasion d'affiner comme ça leur conscience des enjeux de leur rôle, des difficultés de leur rôle, qui se sont donné des missions fois après fois pour améliorer leur rôle de président ou leur rôle d'animateur, etc. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on termine par une animation où soit ils animent une autre classe, soit ils s'animent entre eux, soit ils animent une discussion avec les parents qui viennent à l'école. Et ça marche très bien, il n'y a vraiment pas de difficulté. Je reviendrai sur ces a priori qu'on peut avoir. L'absence de capacité d'un enfant, y compris 6 ou 7 ans, à faire de la philo et à gérer même la discipline collective. Les enfants peuvent apprendre à écouter aussi bien que des adultes, et ils pourraient donner des leçons d'écoute à des adultes, parce que dans le fond, comme on n'a jamais appris à écouter, jamais appris à s'écouter dans une discussion, en général, une discussion entre adultes, on pourrait dire qu'on manifeste très très peu de capacité d'écoute. Donc ça c'est Todi, donc distribution des rôles. Il y a des rôles, je disais oui, plutôt gestion de la discussion, gestion des règles de parole, etc., du respect, un climat qui permet de discuter ensemble, et puis gestion de la dimension philosophique de la discussion. Alors, c'est encore une autre paire de manches, ça, savoir comment on fait de la philosophie et pas simplement de la discussion. Ouais, c'est un enjeu délicat, disons. Alors, chez Lippmann, c'est les processus de pensée. Chez Todi, oui. Todi, si vous voulez, je peux l'écrire, j'avais mis le tableau. Alors, Todi, c'est comme ça. Et Lippmann, voilà. Todi, donc, les enjeux philosophiques, comment est-ce qu'il fait ? C'est la mission particulière de 3 rôles. Le rôle du reformulateur, déjà ralentir, vérifier qu'on a bien compris. Et il y a un élève qui exerce cette fonction permanente de reformuler ce qui vient de traduire. C'est tout des processus de traduction. Quand on prend la parole, on doit traduire une idée qu'on a dans une phrase, dans un langage. Et puis l'autre qui écoute doit aussi traduire. Est-ce qu'il a compris la même chose que j'ai voulu dire ? Est-ce que j'ai dit ce que je voulais dire ? Et ça, il y a des écarts permanents. Enfin, on sent bien ça. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est vraiment compliqué. C'est une finesse à acquérir, mais qu'on peut travailler justement parce qu'on travaille tout le temps sur la reformulation. Il y a le synthétiseur. Ça, c'est vraiment essayer de voir des lignes dans la discussion, des oppositions qui se manifestent, des enchaînements. Il y a quelque chose, il y a une piste qui est suivie, qui est prolongée. Enfin, réussir à devenir un bon synthétiseur, c'est vraiment un exercice. Mais c'est un exercice qui peut être conscient. Donc chacun de ces rôles, par exemple, est doublé par un rôle d'observateur qui, à chaque fois, vient dire les forces et les faiblesses de ce qu'il observe. Et alors, il y a le rôle d'animateur, qui est celui qui prépare la discussion et qui relance par des questions le débat. Alors, troisième technique, c'est... je vous en prie. C'est Levin. Alors Levin, c'est un psychanalyste en fait, psychologue de formation, donc pas philosophe, et ça se ressent assez fort dans son dispositif d'animation, qui est un dispositif qui fonctionne en 2 fois 10 minutes, 10 minutes où la classe est mise en cercle, où on a un micro qui enregistre, où l'animateur donne un mot, pas n'importe quel mot, mais un mot qui permet de mettre l'enfant en lien avec la société, qui permet donc de le considérer comme un interlocuteur sur des choses de société. Ça peut être la justice, ça peut être l'école, la prison, que sais-je. Et la seule règle, c'est qu'on parle quand on a le micro et pas à un autre moment, donc pas de débat. Et ça circule de façon circulaire, justement. Il n'y a pas d'autres consignes. Il y a une volonté comme ça de déscolariser, de se dire on ne va pas donner des consignes dans la discussion parce que ça va empêcher un certain naturel, une certaine spontanéité. Donc ils vont dire exactement ce qui leur passe par l'esprit au moment où ils ont le micro. Mais alors, en analysant après coup, on voit qu'il y a des échos, il y a des choses qui reviennent, qui se creusent un peu, il y a des contradictions, enfin des contradictions explicites, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà. Et on table sur ce genre de processus, et on table là-dessus parce qu'on rajoute un deuxième élément, qui est après 10 minutes de discussion qui ont été enregistrées, on réécoute. On réécoute, rien que réécouter, c'est s'approprier une voix. Parce que sa propre voix, on ne l'entend pas de la même façon quand elle vient de l'intérieur que quand on la réécoute de l'extérieur. Peut-être que vous avez eu l'occasion de vous réécouter quand vous avez enregistré. C'est souvent compliqué, hein. Il y a vraiment un écart entre ce qu'on entend, ce à quoi on est accoutumé. C'est comme le reflet de soi dans le miroir. Les autres ont une vue sur nous qui est beaucoup plus constante. Ils ont une meilleure idée de comment on se tient, de comment on bouge, de comment on est physiquement que nous-mêmes. Parce que nous, il faut qu'on se place devant un miroir pour se voir. Idem sur la voix. Donc c'est tablé sur une sorte de réconciliation avec sa propre voix, d'abord, fondamentalement, mais dès le plus jeune âge, dès la maternelle, vraiment en 3, 4, 5 ans, dès qu'on commence à faire quelques mots, se dire ça vaut la peine de se dire on va demander un avis, un enfant son avis sur le sentiment de la colère, qu'est-ce qu'il en pense. Et puis il va s'écouter et il va prendre plaisir à se réécouter parce que c'est valorisant fondamentalement de se réécouter. Et puis c'est simplement par la répétition de ce processus qu'on attend et on constate une sorte d'accroissement du moi. C'est que simplement par le fait répété d'avoir à discuter pendant très peu de temps, 10 minutes, mais chaque semaine, discuter de thèmes de société ou de thèmes sur les émotions, sur l'école, par ce simple fait, on commence petit à avoir conscience de beaucoup plus de choses, à se poser des questions qu'on ne se pose pas si on n'a pas un espace de parole qui permet de les poser. Donc ça, c'est Levin. Et le dernier dispositif, le dernier courant, c'est Brainifier. Alors Brainifier, c'est la maïeutique socratique. Alors disons, ça, c'est la version extrêmement musclée dans les dispositifs d'animation parce qu'elle vise à, déchiqueter le discours. C'est pas, disons, dans ces trois courants-là, il y a vraiment une attention, on pourrait dire, une sorte d'empathie, une sorte de climat de la discussion qui va à l'écoute, qui va au sens qu'on peut donner aux choses, et où, par exemple, on a toujours l'occasion d'aller au bout de sa pensée, de la corriger. Alors, avec la maïeutique socratique, non, on est arrêté immédiatement parce qu'on va décortiquer. Et chaque mot prononcé, chaque intonation va être sujette à un questionnement. Si je commence ma phrase par je pense que, va arrêter, tu penses que. Tiens, pourquoi est-ce que tu commences ta phrase par tu penses que? Pourquoi ne dis-tu pas immédiatement ce que tu penses? Ça t'arrive par exemple de parler sans penser? Déjà, on va déjà se poser cette question bizarre. Est-ce que ça m'arrive de parler sans penser? Oui, probablement. Enfin, quoique, hein, on va déjà, c'est déjà un abîme, ça. Est-ce qu'on parle sans penser parfois? Mais vous voyez qu'on va, buter constamment sur tous les réflexes de langage, mais qui sont souvent illustratifs de quelque chose de plus fondamental, qui est soit une façon de s'exprimer, soit un tic mental, quelque chose qui illustre quelque chose de notre fonctionnement mental. Et c'est extrêmement agaçant, en fait. Il m'arrive assez souvent de former des profs et je commence plus jamais par la maïeutique socratique parce que ça crée une sorte de climat un peu douloureux comme ça où plus personne ne me parle à la pause café de la première matinée. Donc je me dis, je vais attendre un petit peu. Oui, parce que voilà, il y a quelque chose de comme acculer quelqu'un, c'est-à-dire l'obliger à penser ce qu'il ne veut pas penser, lui formuler des questions qui sont contraignantes, pas parce qu'on estime que la question a un intérêt, mais simplement pour l'obliger obligés à penser ce qu'ils se refusent à penser, ce genre de choses. Si je vous demande, par exemple, préférez-vous mourir pendu ou noyé, il est probable que vous n'ayez pas envie de vous approprier cette question-là. Je ne dis pas qu'elle a un intérêt en soi, c'est juste si on ne répond qu'aux questions qu'on s'adresse, qui nous semblent intéressantes, mais il y a des choses de soi qu'on ignore complètement. Et donc l'intérêt, voilà, c'est de temps en temps arriver avec une question qu'on ne se formule pas et la rendre contraignante, en se disant, bah tiens, mince, je vais m'y coltiner à cette question. Vous savez que Socrate a mal fini, mais il y a quelque chose de ça, quoi. Hein. Il se présentait lui-même comme un temps sur la croupe d'un cheval, quelque chose d'agaçant qui vient couper les cheveux en quatre en permanence, qui empêche d'aller au bout de ce qu'on dit et qui va soulever à chaque fois les contradictions qu'il y a dans le discours. Donc ça, dispositif qui n'est pas trop fait pour les petits-enfants. Si vous allez voir d'ailleurs sur le site de Brénifié, vous verrez des séances de torture qu'il peut faire avec des enfants de 7 ou 8 ans, c'est abominable, enfin, donc à déconseiller. Disons que c'est super intéressant, moi je trouve, quand c'est pris pour un jeu, dont les règles sont claires, dont les enjeux peuvent être explicites, et l'enjeu c'est toujours la conscience de soi, et quand ça ne dure pas trop longtemps, parce que c'est extrêmement fatigant. Et ça pourrait déstabiliser, alors que finalement, l'enjeu global de ces dispositifs-là, c'est d'abord de donner confiance. De donner confiance à des enfants à qui on retire par principe la possibilité de penser par eux-mêmes. Alors j'en viens justement à ces questions presque historiques qui expliquent l'émergence de ces dispositifs de philosophie pour enfants, philosophie à l'école. La première des raisons qui a rendu possible le développement de ces pratiques-là, c'est justement le changement de statut de l'enfant. C'est tout récent. Dans les historiens, il y a un historien, Philippe Ariès, peut-être que vous avez entendu parler de lui, qui est un historien de l'enfance, justement, et qui signale la modification incroyable du statut de l'enfance au XIXe siècle. C'est-à-dire, jusqu'alors, un enfant, ça compte pas. Et ça compte pas même au sens, vraiment, on ne compte pas le nombre d'enfants qu'on a eu. Il y a une phrase de Montaigne qui est incroyable, qui dit « J'ai perdu 3 ou 4 enfants ». Mais c'est inimaginable aujourd'hui qu'on puisse perdre le compte des enfants qu'on a perdus. C'est un tel drame perdre un enfant. Donc il faut sortir de la naturalité du sentiment qu'on a à l'égard de ses enfants pour se rendre compte qu'il est constitué historiquement. C'est-à-dire si les enfants comptent aujourd'hui, s'ils sont comme la prunelle de nos yeux, eh ben c'est le fruit de modifications historiques qui leur ont donné un rôle beaucoup plus central aujourd'hui dans une vie d'adulte que c'était le cas il y a à peine 150 ans. Alors, pour preuve de ces évolutions, il y a notamment la Convention des droits de l'enfant. C'est très récent, c'est 1989. Et parmi les droits de l'enfant, il y a le droit à penser par soi-même. Voilà, explicitement, le droit de penser par soi-même. Ça ne veut rien dire donner à un enfant le droit de penser par lui-même en dehors d'un certain nombre de pratiques qui vont lui permettre de réaliser ce droit-là. Donc ces pratiques-là, elles peuvent s'appuyer sur l'existence d'un droit international qui est un droit de l'enfant pour dire mais ce droit ne doit pas rester vide, ça ne doit pas rester un droit formel. Le droit à penser par soi-même, ça doit être fondé sur une pratique qui donne l'occasion de travailler concrètement à cette pensée par soi-même. Alors dans les autres conditions qui ont rendu possible l'émergence de ces pratiques-là, il y a aussi la modification des pédagogies. Je vous ai parlé la fois passée de John Dewey et de l'héritage qui a pu être le sien, qui est Freinet et les pédagogies actives de Crowley, etc. Quand on va vers les pédagogies actives, on va aussi vers l'idée de socio-constructivisme, c'est-à-dire vers l'idée non pas que le savoir se transmet, mais l'idée que le savoir se construit. Et finalement, on fait de la science le modèle de l'acquisition de tous les savoirs, mais la science, c'est précisément un modèle où la vérité est construite. Elle est construite par une expérience, par une hypothèse initiale qui est répétée un certain nombre de fois. Et donc, on fait de ce modèle de la construction du savoir dans les sciences le modèle de tous les savoirs. C'est quelque chose à quoi Lippmann tenait particulièrement. Il parle d'une communauté de recherche dans ce sens-là, c'est-à-dire, voyez comment fonctionnent les chercheurs. Ils n'ont pas intérêt à être seuls, ils ont intérêt à être en communauté, à être plusieurs, c'est-à-dire à profiter du cumul des intelligences, du croisement des regards, de la multiplication des vécus, de la multiplication des expérimentations, des expériences. De la même façon, on va essayer de considérer en philosophie que c'est un processus de recherche qui a intérêt à profiter de la collectivité des intelligences et pas du tout à être fondé sur un personnage brillant, Mais vous voyez comment il faut aussi sortir d'une sorte de paradigme qui vaut toujours à l'université, qui fait qu'on signe ses ouvrages de son nom à soi, qui fait que si on est engagé, c'est quand on a un CV relativement épais qui montre une œuvre personnelle. Il y a toujours cette volonté de faire œuvre, mais qui est en train progressivement de se déconstruire. On commence par exemple en Flandre, si on veut avoir une carrière de chercheur au FNRS, c'est plus du tout les mêmes procédures qu'en Wallonie. En Flandre, il faut faire partie d'une équipe de recherche et il faut avoir amené sa petite pièce dans la recherche collective. En Wallonie, ce n'est pas du tout le cas. En Wallonie, c'est toujours fondé sur un profil de chercheur brillant, quoi. Le type le plus brillant et qui fait sa recherche seul. Finalement, il n'y a pas d'exigence de coopération, de collaboration. Donc voilà, le développement de cette idée un peu socio-constructiviste de la vérité, du savoir, a rendu aussi possible le développement de ces pratiques-là dans le champ de la philosophie qui était un peu résistant. Troisième condition, disons, de la naissance de ces pratiques-là, c'est l'évolution dans la conception de l'idée de démocratie, c'est-à-dire l'idée d'une démocratie qui n'est pas simplement une démocratie représentative, mais une démocratie qui est fondée d'une part sur le droit d'expression. On sent ça assez fort, hein, le droit qu'on a à s'exprimer personnellement, le droit à la parole, le droit à l'opinion propre. C'est le premier amendement aux États-Unis, c'est tout ce qui fait problème aussi quand les usages limites de ce droit à l'expression dans les caricatures de Mahomet où on parle beaucoup de Dieudonné maintenant, voilà, jusqu'où va ce droit à l'expression d'une opinion personnelle, c'est des questions qui sont importantes aujourd'hui mais qui sont nouvelles, c'est pas des questions d'il y a un siècle ça. La démocratie aussi, elle a évolué au sens où elle est perçue maintenant comme un espace public qui est un espace de débat. Et il faut donner au mot débat toute son importance, c'est-à-dire démocratie, ça ne doit pas simplement être un lieu d'une expertise, c'est-à-dire il faudrait simplement appeler à la rescousse les économistes qui viendraient nous donner un modèle économiquement valide pour sortir de la crise, par exemple. Donc sortir d'une démocratie de l'expertise où les choses ne se débattent pas, il n'y a que les bonnes solutions, il n'y a que les vérités qui ont l'air de s'imposer du haut des sciences, disons, vers une démocratie du débat, c'est-à-dire une démocratie qui discute des solutions alternatives, qui discute des modèles disciplinaires alternatifs. Peut-être que l'économie n'est pas le modèle d'une décision politique. Donc voilà, tout un climat de ce type-là qui rend, disons, possible, favorise l'émergence de ces dispositifs et plus généralement de la philosophie pour enfants, avec les enfants. Alors il y a une question que ça pose fondamentalement, ces dispositifs, c'est celui de l'éducabilité philosophique des enfants. Parce qu'il ne suffit pas que les enfants soient précieux pour qu'on puisse se dire « faisons de la philosophie avec les enfants ». Il va falloir se demander si, dans quelle mesure c'est faisable et de quoi parle-t-on. Dans l'histoire de la philosophie, les avis sont tranchés. Il y a un certain nombre de penseurs qui ont considéré qu'il était impossible de faire de la philosophie avec les enfants. Il y a par exemple Hegel, la philosophie se couche à la tombée de la nuit. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne philosophe qu'à un certain âge de maturité, avec un certain nombre d'expériences de vie, avec un certain savoir accumulé, et que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut philosopher. Donc on ne peut pas philosopher jeune. Descartes pensait, lui, que l'enfance est le lieu du préjugé, tellement indécrottable qu'il n'y a pas de philosophie possible. Platon, lui aussi, considérait qu'il ne fallait pas faire de la philosophie, mais plutôt, avec les enfants, plutôt en raison des effets qu'on produisait, on risquait de faire des enfants des pinailleurs. Et tout à coup, ils allaient ergoter sur tout et n'importe quoi, et ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, il y a un certain nombre d'opposants comme ça à l'idée de faire de la philosophie avec les enfants. Le plus souvent, c'est qu'on considère que les enfants ne sont pas suffisamment rationnels pour cet exercice de rationalité par excellence qu'est la philosophie. Alors il y a ceux qui, au contraire, ont considéré qu'il fallait commencer le plus tôt possible, comme Épicure, il n'est jamais trop tôt pour commencer, ou Montaigne, celui qui avait oublié le compte de ses enfants morts, mais qui néanmoins disait, on peut commencer dès la nourrice. Alors, Moi, ce que je dirais, c'est que je trouve que c'est une question un peu biaisée de se demander si les enfants sont assez mûrs pour, assez aptes à philosopher. Et dans le fond, il y a quelque chose qui m'intéresse assez bien qui s'appelle l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si vous connaissez cet effet, qui est basé sur une expérience de Rosenthal, Jacobson, je crois, avec des rats. Il y a le lot de rats qui est mis sous la direction d'un groupe de 6 élèves à qui on dit ah, ceux-là ils sont sélectionnés génétiquement, c'est des brillants quoi. Et puis il y a les mauvais rats soi-disant, alors que la sélection a été complètement aléatoire, et de fait on verra que les rats qui sont considérés comme brillants parviendront beaucoup plus facilement au bout de leur parcours, alors que dans les rats qu'on a vendus initialement comme les rats génétiquement sous-développés ou mal formés, etc., parfois ne partiront même pas de la ligne de départ. Donc l'effet Pygmalion, c'est disons la prédiction créatrice. C'est de se dire qu'il n'y a pas simplement à interroger les conditions de possibilité d'une pratique comme la philosophie, quelles conditions y a-t-il faire de la philosophie, est-ce qu'il y a une condition d'âge, mais c'est de se demander, tiens, si on fait le pari de la philosophie avec des enfants, qu'est-ce qu'on produit ? Qu'est-ce qu'on produit comme modification ? Quelle intelligence on éveille chez eux qu'on n'aurait pas éveillé si on n'avait pas fait ce pari-là ? Et c'est évident que si vous ne considérez pas qu'un enfant de 4 ans peut donner son avis sur ce qu'est la colère, il ne le donnera jamais, c'est bien sûr ça. Si vous n'instaurez pas un espace de parole qui permet à un groupe d'enfants de se retrouver régulièrement autour d'une question de société, bien sûr que dans la cour de récréation, ils ne vont pas dicter de la peine de prison ou de « doit-on manger de la viande ?» ou « en quelle mesure on est un animal qui se distingue des autres animaux ?» ou ce genre de choses. Mais par contre, si vous le faites, vous pouvez quand même trouver non seulement un plaisir chez eux à discuter de ça, une valorisation et quelque chose qui s'alimente et qui grandit leur capacité à considérer de plus en plus le champ de l'expérience humaine comme étant un champ qui les concerne, qui les intéresse, sur lequel ils ont un avis. Alors, peut-être que je vais vous proposer, je vous avais dit que je serais moins organisée parce que trop de choses à dire et ne sachant pas trop comment, dans quel ordre les dire. Ce que je vous propose de faire, c'est de voir un peu maintenant, plus concrètement, disons, quelles sont les dimensions d'un atelier philo, enfin concrètement, quoique. Hein. Je réserverai peut-être à vos questions les questions assez concrètes, mais parlons des dimensions d'un atelier philo avec les enfants. Et je dirais qu'il y en a trois. J'ai parlé jusqu'ici de la dimension démocratique et de la dimension philosophique. Il y en a une troisième qui est la dimension existentielle. Alors la dimension démocratique, peut-être. La première chose qui exige cette dimension démocratique de la discussion philosophique, c'est qu'on rompe avec un modèle classique du débat médiatique, et qui est un modèle tellement classique qu'on en est tous imprégnés. Si par exemple vous pensez « on ne peut pas discuter avec toi parce que tu n'es jamais d'accord », ça veut dire que vous êtes un peu imprégné de ce modèle un peu héristique, c'est-à-dire ce modèle de la confrontation où on peut difficilement parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc il faut déjà réussir, et c'est le plus fondamental pour la dimension démocratique de l'atelier de philosophie, réussir à ce qu'on puisse se dire « c'est super, on n'est pas d'accord ». C'est super, on n'est pas d'accord, et donc on va pouvoir de ce désaccord discuter d'autant mieux. Discuter d'autant mieux parce que, comme on n'est pas d'accord, l'avis de l'autre va nous permettre d'une part d'envisager mieux les a priori de notre propre avis, et d'autre part d'envisager mieux les positions, les hypothèses qui ne sont pas les nôtres. Autrement dit, le désaccord est absolument essentiel à la pensée philosophique. Et à chaque fois qu'on refuse de discuter avec quelqu'un qui n'est pas du même avis, ça veut dire qu'on quitte le champ de la réflexion rationnelle pour simplement être dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel, qui est la volonté d'affirmer son avis. Et alors là, on rejoint tout de suite la dimension philosophique réelle d'une discussion. À quelles conditions est-ce qu'on fait de la philosophie ? Certainement pas si on est dans la volonté d'affirmer son avis. Il faut au contraire, non pas vouloir l'emporter sur l'autre, et vous voyez que le modèle médiatique, il est à fond là-dedans, hein, quand il y a un débat entre des hommes politiques, un débat entre... Il va falloir que ce soit musclé, et c'est vraiment celui qui va réussir à moucher l'autre qui emportera le morceau. C'est ça le modèle qu'on nous vend. toute la coopération, vous passez de nouveau complètement à côté. On n'est pas dans une société qui valorise ces modèles de coopération. Est-ce qu'il est possible de coopérer alors qu'on n'est pas d'accord? C'est-à-dire de remercier l'autre de la différence des avis, d'avoir un plaisir à se dire « Waouh, grâce à toi qui penses autrement que moi, j'ai vu autre chose, du même monde ou du même problème. » Et les meilleurs ateliers philo, c'est vraiment ça qui se passe, cette espèce d'émerveillement incroyable de considérer que celui qui ne pense pas comme nous est presque notre soutien le plus fort. Alors je disais lien avec la dimension philosophique parce que la philosophie, ça ne consiste pas à affirmer un point de vue, à défendre un avis pour l'emporter, ça consiste beaucoup plus fondamentalement à essayer d'évaluer les raisons qu'on a de penser ce qu'on pense. Pas avoir raison, mais évaluer les raisons. Et donc à avoir à l'égard de ce qu'on pense un regard d'évaluation. Est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense? Mais si vous vous demandez, tiens, quand je discute avec quelqu'un, à quel moment est-ce que je suis prêt à réviser mon avis? À quel moment est-ce que je suis prêt à changer d'avis? Vous pourriez dire presque jamais. En fait, la modalité naturelle de la discussion, c'est la modalité où on considérerait comme une perte, comme une défaite, le fait de renoncer à son avis. Il faut réussir là à inverser de nouveau presque le système émotionnel qui fait qu'on est humilié de ne pas réussir à défendre son avis jusqu'au bout, pour au contraire arriver à un climat qui permet de se dire « chouette, je ne pense plus la même chose ». Alors ce qui permet ça, c'est que ça soit explicite. Si vous ne rendez pas les enfants conscients ou les adultes conscients de leur mécanisme naturel, c'est-à-dire on pourrait dire sociologique, c'est l'œuvre d'une époque, leur façon naturelle de se glisser dans la parole, ils n'ont aucune chance de conquérir une autre façon de parler et ils n'ont donc aucune chance de faire de la philosophie collectivement. Faire de la philosophie collectivement, ça exige absolument de donner une place de parole à l'autre qui a une valeur et qui n'est pas simplement le réceptacle de ce que je pense, moi qui vais continuer à penser ce que je pense au bout du compte. Alors, il vaut mieux ne pas faire de philosophie. Ça c'est la dimension démocratique, disons, de la discussion philosophique. La dimension philosophique proprement dite, c'est toujours très compliqué de savoir à quel moment est-ce qu'une discussion est philosophique. Est-ce que ça dépend du thème? On pourrait dire toute discussion existentielle est une discussion philosophique. Mais ça paraît pas tout à fait suffisant, d'abord parce que on peut faire de la philosophie sans parler des problèmes existentiels. Il y a de l'épistémologie, on parle de la connaissance, c'est pas nécessairement existentiel. Il y a de l'esthétique, on parle de l'art, du beau, c'est pas nécessairement existentiel. Il faut faire le droit à plus large que les questions existentielles pour faire droit à ce qu'on appelle classiquement philosophie. Mais alors bon, comment est-ce qu'on fait de la philosophie? Qu'est-ce qui est le garant de la philosophie? C'est pas le thème lui-même. Si d'un même thème, on peut parler philosophiquement, mais aussi autrement, scientifiquement ou non philosophiquement. Ce qui fera qu'il y a de la philosophie, on pourrait dire que dans tous ces dispositifs, c'est fondé sur la réflexivité. C'est-à-dire, c'est fondé toujours sur, on pourrait dire, réflexivité au sens réflexion, comme la réflexion dans le miroir. Je vous ai dit ça au sujet de sa voix, réflexivité au sens où on entendrait sa voix enregistrée. Est-ce qu'on peut faire la même chose au sujet de ce qu'on pense et de ce qu'on... Avoir cet effet de distance qui fait qu'on regarde ce qu'on pense ou ce qu'on dit. Vous voyez qu'on a ça directement dans le dispositif Levin par le simple fait qu'on enregistre et qu'on réécoute et qu'on peut créer cet effet de distance de façon mécanique rien que par ce dispositif on enregistre puis on réécoute. Dans tous les autres dispositifs, il y a toujours des observateurs. Il y a toujours des observateurs particulièrement, enfin ça peut être de plein de choses, je vous l'ai dit, mais des observateurs des habiletés de pensée ou des observateurs d'un participant en particulier et au sujet de ce participant, ils vont essayer de dire, a-t-il posé des questions? Quelles questions? A-t-il argumenté? Quel type d'argument? A-t-il défini les mots qu'il utilisait? Et puis, quel est le conseil que je lui donnerais pour la fois d'après? Et ce genre de choses qui permet pas simplement d'être plongé dans une discussion, dont les thèmes pourraient être philosophiques parce qu'ils sont existentiels, politiques et éthiques, etc. Mais aussi simplement cet effet qui est produit vraiment par une façon d'organiser la discussion, simplement en créant des observateurs, eh bien, de rendre quelqu'un plus conscient de quelque chose, de le mettre à distance de lui-même et de le rendre donc aussi plus apte à distinguer toutes ces opérations de la pensée qu'il peut faire de façon inconsciente, initiale. Plus un enfant est conscient de ce qu'il fait, plus on estime qu'on lui donne des outils qui libèrent sa pensée. Imaginez dans un débat, on vous demande votre avis, sur l'adoption par un couple homosexuel. Vous avez immédiatement un positionnement qui est presque instinctif, immédiat. Est-ce que vous faites de la philosophie pour autant? Si vous défendez votre avis, on pourrait dire que dès que vous commencez à argumenter, peut-être vous faites un peu de philosophie. Mais si vous commencez à être conscient, par exemple, du type d'argument que vous sollicitez, on sollicite un argument psychologique, on sollicite un argument sociologique ou que sais-je. On peut déjà, rien que la conscience du type d'argument qu'on sollicite nous ouvre des champs possibles où on va pouvoir d'abord considérer l'avis de ceux qui pensent autrement que nous en se disant, ah ben oui, peut-être que dans le champ de la psychologie, c'est normal d'avoir des soupçons à l'égard de l'adoption. Je sais pas, hein, comme ça, je suis psychologue, c'est pas du tout normal de soupçonner l'adoption au point de vue de la psychologie. Alors si en plus on vous dit, mais quand vous défendez un avis, vous pouvez le défendre de plein de façons différentes. Vous pouvez donner des exemples, mais vous pouvez aussi, quand vous donnez des exemples, chercher des contre-exemples. Vous pouvez comparer, vous pouvez distinguer, vous pouvez définir, vous pouvez objecter, etc. Il y a 250 habiletés de pensée, pour vous dire, là je vous en donne que quelques-unes, qui sont distinguées, qui sont nuancées, et on essaye de rendre les enfants de plus en plus conscients de ces habiletés de pensée, simplement comme si c'était des outils pour penser autrement, penser mieux, penser plus à fond, faire le tour d'une question, rien que parce qu'on a tous les outils qui nous permettent de voir, tiens, formellement presque, est-ce que j'ai envisagé tous les angles sous lesquels je pouvais envisager cette question, est-ce que j'ai fait le tour. Donc voilà pour la dimension philosophique. La dimension existentielle, maintenant, elle est un peu contenue déjà dans la question de la réflexivité. Se voir soi-même, c'est déjà travailler la conscience de soi, la conscience de, par exemple, la hiérarchie de valeurs qu'on a. Je peux savoir, par exemple, que je suis plutôt pour la peine de mort, parce que je serais, par exemple, je mettrais dans la hiérarchie des arguments en priorité les arguments de type économique. Moi, j'aurais une grille de lecture de la société qui fonctionne d'abord à partir de l'économie, et je me dirais, je suis pour parce que c'est économiquement beaucoup plus rentable, la peine de mort. Enfin, je vais vous chercher un exemple qui est un peu lourd, mais un peu tiré par les cheveux, mais je veux dire, conscience d'un système de hiérarchie de valeurs qui fait qu'on est pour ou contre certaines choses et qu'on a conscience aussi que les autres sont pour ou contre à partir d'un autre système de valeurs. Quelqu'un qui est pour, qui est contre la peine de mort, c'est peut-être que parce que pour lui, la vie n'a pas de prix et que donc c'est pas l'argument économique qui permet de trancher sur question. Mais voyez que dès que vous arrivez à mettre le système de valeurs au jour, il y a des éléments de compréhension et on sort de la conflictualité problématique. On a juste envie de dire, mais t'es vraiment un salaud, toi, contre, t'es pour. Mais non, c'est vraiment comprendre comment est organisée la vision du monde de l'autre qui justifie qu'il a la vie qu'il a. Ce genre de choses. Donc la dimension existentielle, c'est d'abord cette dimension de conscience de soi. Il y a des choses assez amusantes dans la maïeutique socratique. C'est de temps en temps de se confronter au sens commun. Brénifié demande assez régulièrement, comme ça, quand quelqu'un défend un avis, est-ce que tu penses que le sens commun, c'est-à-dire le groupe, le sens commun est représenté par tous ceux qui sont là au moment où on parle, est-ce que le sens commun est d'accord avec toi? Penses-tu plutôt oui ou plutôt non? Est-ce que tu as été plutôt clair ou plutôt pas clair? C'est-à-dire, est-ce que tu peux sortir de toi-même pour essayer de voir si tu te regardais de l'extérieur, qu'est-ce que tu penserais de ce que tu as dit? Et ça peut être ça aussi pour qualifier un avis, si vous avez une formule, vous êtes tout à fait pris dans cette formule. Et il est possible de demander, que penses-tu de quelqu'un qui dit que ? Comment tu le qualifierais, cette personne qui dit ça ? Et essayer de faire ce pas d'écart qui me permet de dire, je dirais que c'est quelqu'un de super inquiet. Ah, pourtant je ne suis pas inquiet, pourtant je n'ai pas le sentiment d'inquiet. Vous voyez, ce genre d'effet d'écart qui permet de se rendre compte de ce qu'on donne à voir aux autres et de la façon comme en parlant de quelque chose, on parle toujours de soi-même. Donc réussir à avoir ce qu'on met de soi-même quand on parle d'un objet commun. Parce que sinon, c'est très compliqué de parler d'un objet commun. On ramène tous tellement nous-mêmes qu'on est même plus sûr qu'on parle de la même chose. Donc ce travail, il est presque préalable pour être sûr qu'on comprend la même chose, qu'on a la même représentation. Il y a des conflits de mots en permanence. Sous un même mot, on peut mettre des tonnes de choses différentes. Il faut vraiment se mettre d'accord aussi. Alors dans la dimension existentielle, il y a aussi ce fait fondamental de se risquer à la parole, se risquer à la parole collective, se risquer à dire ce qu'on pense dans un groupe. Alors, il y a peut-être parmi vous ceux qui c'est facile, il y a ceux peut-être qui n'ont justement pas eu la possibilité de se risquer à cette parole et donc de s'acclimater. Pas si facile de prendre la parole devant un groupe et d'assumer sa pensée, surtout qu'elle est fragile, elle est en risque, peut-être que je vais dire une bêtise. C'est tout ce processus qui compte et qui veut dire aussi qu'il y a de l'humilité nécessaire. On n'est pas là comme dans un cours de philo académique à tellement voler au-dessus des nuages et dans la complexité qu'on rend presque la parole, la question, on y met des obstacles. Poser une question après une conférence de philo, c'est beaucoup plus compliqué. Ou après un cours de philo hyper technique, c'est compliqué, on n'est pas sûr qu'on peut se permettre de le faire. Mais voilà, c'est surtout pas être dans ce monde-là pour être dans un monde qui privilégie aussi la question. Pas le savoir tout constitué, mais le fait de pouvoir se poser comme quelqu'un de questionnant et qui prend plaisir à questionner. On remarque que dans l'école classique, c'est le prof qui parle 80% du temps. Ça veut dire qu'il reste très peu pour les élèves. Ça veut dire qu'il reste très peu aussi pour, par exemple, les timides, ceux qui c'est pas évident de se glisser dans la parole, tout cela, c'est fini. Dans les 20% qui restent, ils parleront jamais. Mais c'est toute une vie qui passe ainsi dans le silence et dans la... Enfin, voilà, dans le côté timoré et timide. Alors qu'on peut très vite s'acclimater à sa propre voix, à sa propre parole, prendre plaisir à ça et finalement, comme se réconcilier. Mais se réconcilier, ça veut aussi dire se réconcilier avec sa parole. Ça veut aussi dire que c'est la considérer comme quelque chose de précieux. Le problème, c'est que la parole aujourd'hui, c'est comme une poubelle, quoi. Si vous entendez parler des jeunes, dans une classe particulièrement, d'abord, ils pensent qu'ils ont le droit de parler. Si par exemple je coupe parce que je fais un exercice version maïotocratique, il y a comme une fureur là. C'est, mais j'ai le droit d'aller au bout de ma phrase. Calme. On va d'abord évaluer ce droit, le droit d'aller au bout de sa phrase. Est-ce qu'il y a d'autres formes de droit qui rentreraient en conflit ? Comme c'est toujours le cas quand on a le droit de quelque chose, il y a souvent un conflit avec un autre droit. C'est trop compliqué là, le droit. Mais le droit d'aller au bout de sa phrase. Mais ça veut aussi dire, c'est qu'on tient fondamentalement à dire ce qu'on a sur le cœur, mais qu'il y a aussi un aspect très émotionnel de la parole, c'est en gros vider son sac. J'ai le droit de vider mon sac, j'ai le droit de renverser mon discours comme une brouette, là. Je renverserai au milieu du groupe. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas de considération. C'est ça le prix à payer. C'est le droit à la parole et le droit à aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait dire. Ça veut aussi dire que peu importe ce qu'on dit, on peut dire tout et n'importe quoi. Si au contraire, je peux faire peser un autre droit, ce serait le droit à quelque chose de réfléchi, de mûri. Le droit à une parole qui compte. Mais si une parole compte, ça veut dire qu'elle n'est pas déversée de la même façon. Ça veut dire qu'elle commence à devenir rare et précieuse. Se réconcilier avec sa parole, c'est aussi cet autre aspect qui est commencer à considérer que parler, c'est pas juste se vider. Dans une civilisation très psychologisante, la parole a vraiment encore plus pris cette connotation de « je vide mon sac ». On a vraiment cette idée que la parole est libératrice. Ça y est, je l'ai dit, c'est bon, je peux ne plus écouter ce que lui. C'est vraiment ça qui se passe dans les classes, avec tout ce que ça comporte de déconsidération finalement fondamentale pour la rigueur d'une parole qui est nuancée, qui est précise, où j'ai bien ajusté ce que je pensais à ce que j'ai dit. Où ça compte après ce qu'on va faire de ce que j'ai dit, je ne m'en libère pas les mains en disant « ouais, c'est mon avis, après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est encore le même prix ». C'est tout ça qu'il faut rebrousser, là, parce que c'est quand même vraiment presque des tendances qui s'imposent de façon très... Enfin, c'est des courants impérieux, quoi. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est parler des quelques réserves ou de quelques obstacles qui peuvent se présenter à ces pratiques, après vous en avoir donné un peu les dimensions, les intérêts, tout ça. Mais vous verrez qu'à chaque fois que je vais mettre des réserves, je vais... les déconstruire juste derrière. Alors, il y a deux réserves, je dirais, fondamentales, une réserve d'ordre philosophique et une réserve d'ordre psychologique au fait de faire de la philo avec les enfants. Vous voyez la réserve philosophique arriver à grands pas, c'est pas de la philo. La philo, c'est pas ça, et la philo a une façon de faire qui ne peut pas se prêter à un public d'enfants, surtout pas d'enfants, de primaire. Alors, il y a aussi toute une critique dans les rangs des philosophes de la dimension orale de la philosophie. C'est-à-dire qu'on conteste que la discussion puisse être un genre philosophique. On trouve ça particulièrement chez Deleuze, qui dit que, d'une part, la parole va plus vite que la pensée. On ne peut pas penser par la parole. Il faut des processus pour ralentir. Sinon, précisément, cette parole qui ne compte pas, elle est presque inéluctable dans la discussion. Mais ça veut dire effectivement que dans toutes ces méthodes, il y a toujours des façons de ralentir. Parce que si vous êtes dans le flux de la parole, vous n'arriverez pas à peser. Hein, vous dites le truc tourner cette fois dans sa langue, dans sa bouche. Bah, c'est rien d'autre qu'une façon de dire que pour réfléchir, il faut du temps. Donc ménager un temps, ça c'est absolument indispensable, effectivement. Ça vous donne déjà une petite idée de la façon dont je compte procéder avec ces critiques. Je pense qu'elles sont absolument valables au sens où ce sont des obstacles qu'il ne faut surtout pas négliger. On ne peut pas faire facilement de la philosophie en discutant, c'est vraiment très compliqué. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas le faire, ça veut dire que généralement on ne le fait pas parce qu'on n'a pas mesuré la difficulté. Mais justement, les obstacles, on peut en prendre la mesure et on peut se donner les moyens de les surmonter. Je dirais après pourquoi ça vaut la peine de les surmonter, c'est-à-dire pourquoi ça vaudrait éventuellement la peine de garder la dimension orale de la philosophie plutôt que de passer à l'écriture ou à la lecture qui sont les pratiques beaucoup plus traditionnelles. Alors la discussion, les problèmes qu'elle a, c'est donc sa rapidité, c'est aussi qu'elle est souvent combat de coq, je vous disais, cette souligne, c'est qu'elle est le règne de l'opinion. On dit ce qui nous paraît sensé en gros, mais ça veut dire que ne s'y pense jamais rien de problématique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à aller chercher quelque chose de rare, d'important, que souvent c'est tellement le déversement d'opinions faciles que ça vaut pas la peine de discuter. Deleuze, il dit ça, en tout cas. Éprouver le plaisir de refuser la discussion, de se taire et de tout ne pas se repaître de cette conversation banale qui parle du temps, qui parle de tout et n'importe quoi, mais qui est tout sauf philosophique. Donc voilà, autre défi, c'est que discuter, ce ne soit pas se répandre en opinion sur ce qui vont de soi. C'est difficile, hein, effectivement, demander à un enfant son avis sur choses. Ça se peut bien que ce soit assez fort, rad et pas que rad, donc il va falloir avoir des outils pour permettre justement que quelque chose comme un problème apparaisse. Et une valorisation du problème. Quand on dit vous avez des problèmes, il est probable que vous n'aimiez pas beaucoup les problèmes. Mais ici, il va falloir se dire, ah chouette, un problème. C'est-à-dire, au lieu que tout soit lisse, au lieu que tout aille de soi, bah, il va falloir rompre avec ce régime de l'évidence pour voir un problème là où initialement il pourrait ne pas y avoir un beau problème. Alors pourquoi l'oralité malgré ses difficultés? Il y a d'abord l'idée que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire on pourrait penser que l'oral c'est superficiel, alors qu'on irait en profondeur quand on travaille par la lecture et l'écriture. Mais le problème, c'est que c'est une certaine conception superficielle. C'est qu'on risque comme ça non pas de penser par soi-même, mais d'aller rajouter des couches de culture générale ou des couches d'opinion assez complexes et finalement d'avoir comme ça des tas de couches qui parfois entrent en contradiction parce que on a emmagasiné la philosophie de Platon, celle d'Aristote, celle de Kant et puis qu'on a dû vraiment se familiariser avec tous ces univers et cette complexité. Mais on ne pense pas de cette façon-là, on ne travaille pas finalement réellement sur ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer à penser exactement la même chose que ce qu'on pensait initialement. On n'aura pas travaillé sur le fond des opinions et des convictions qu'on a. On aura juste rajouté des tas de couches très informées, très raffinées, tout ça, mais qui ne modifieront pas la structure même de nos avis, presque notre positionnement instinctif. Donc dans l'oralité, il y a aussi la possibilité, Lévin parlait de ça, d'une philosophie naturelle, directe. Allez, là où vous êtes, on ne va pas essayer de parler de choses immensément complexes. Dites ce que vous pensez vraiment, parce que c'est à partir de ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas travailler tout de suite tellement haut dans le ciel qu'on ne sait même pas ce que vous en pensez, vous, initialement, et on ne sait même pas comment vous allez faire le cheminement qui va vous permettre de déconstruire ce que vous pensez avant de voir comment vous allez le reconstruire. Donc l'oralité, ça permet ce côté en prise directe avec quel est est l'opinion réelle de chaque personne qui va se prêter à l'exercice de la philosophie. Alors l'autre critique, c'est une critique psychologique. C'est de dire, ça, on a éprouvé ça quand on a lancé notre association, la Philocité, tout de suite, il y a eu toutes sortes de psychologues qui nous ont écrit en nous disant, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Est-ce que vous avez mesuré les impacts psychologiques d'un atelier de philosophie sur 6 ans? Est-ce que vous avez mesuré qu'on ne peut pas comme ça, sans risque, parler de thèmes existentiels comme la mort? On vient de faire des animations autour d'un spectacle qui parlait de la mort, qui était particulièrement poignant. Alors la première chose à dire à ce sujet-là, c'est qu'il faut d'abord démythifier un peu une entrée dorée qui n'aurait pas accès à la dimension problématique de un deuil pour un enfant, c'est quelque douloureux. Il ne faut pas penser qu'il vit ça sous le mode du conte où la mort est... Non, ça, dès qu'on part, non pas de ce que nous on pense, mais de ce que les enfants pensent, de comment eux ont une représentation de la mort, et quel est le problème, ça va être partir de leur problème à eux, leur problème existentiel, en ne soupçonnant surtout pas qu'ils n'en ont aucun. Parce que l'enfance, c'est doré, c'est magique, c'est Bambi ou je sais quoi. Non, un enfant vit des choses problématiques, et c'est bien dommage de considérer qu'on ne peut pas en parler avec lui et le considérer comme un interlocuteur qui peut faire quelque chose avec son vécu problématique. À cet égard, il y a d'ailleurs un intérêt particulier de la philosophie dans sa dimension orale aussi, et dans cette dimension, traiter le vécu existentiel problématique avec les enfants qui sont en décroche scolaire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. On pourrait penser que l'atelier de philo, il n'est pas fait pour les enfants qui sont considérés par les profs comme les mauvais, quoi, les tout mauvais, ceux qui doublent et qui redoublent, etc. Et en fait, ce qu'on voit, nous, c'est très fréquent, c'est presque systématique, c'est que ces enfants sont particulièrement les enfants pour qui l'atelier de philo est vraiment un lieu d'expression. Pour quelle raison? C'est qu'il est probable que ces enfants qui sont en décrochage scolaire vivent des trucs compliqués. Il est probable qu'ils aient précisément un vécu familial, social, qui est difficile et qui est d'autant plus difficile que, étant épinglés comme des mauvais élèves, ils ont aussi à assumer cette étiquette qui leur est collée et qui est aussi quelque chose qui renforce souvent la difficulté. Donc offrir à des enfants de ce plat un espace de parole qui est aussi valorisé, alors là il faut être super attentif aussi à valoriser cette parole un peu fragile d'un enfant ou d'un ado qui traverse quelque chose de compliqué, mais c'est justement la possibilité que ces enfants-là retrouvent une certaine estime parce que en fait ils sont tellement engagés dans la discussion, parce qu'ils ont tellement des difficultés réelles à affronter et que ça compte pour eux d'en parler, et bien qu'ils ont pour eux un investissement dans l'atelier de philo qui dépasse largement ceux qui n'ont aucun problème. Ils n'ont pas vraiment besoin de discuter de la mort. C'est d'autant plus intéressant de discuter d'un thème que vous avez un vécu problématique autour de ce thème-là. Oui, alors ça amène aussi peut-être un ajustement sur une définition qu'on peut se faire de la philosophie, c'est que la vision qu'on a de la philosophie, elle est de nouveau très historique, c'est-à-dire la philosophie, c'est la philosophie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, donc ça peut être la philosophie académique qui est une philosophie de commentaires de textes, qui est une philosophie d'historien de la philosophie, mais ça n'a pas toujours été ça. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un intérêt particulier de la philosophie académique à étudier ces pratiques-là parce que ça lui permet de remettre en perspective ces pratiques philosophiques. C'est-à-dire la philosophie, c'est pas simplement une histoire au sens d'une histoire des doctrines, c'est aussi une histoire des pratiques de la philosophie. On n'a pas fait de la philosophie toujours de la même façon. Et notamment, peut-être que vous avez entendu parler de ça, la dimension thérapeutique de la philosophie dans la Grèce antique. Donc la philosophie était considérée initialement comme une thérapie de l'âme. Et c'est précisément dans ce cadre-là, on essaye de renouer plutôt avec ça, une dimension thérapeutique de la philosophie qui fonctionne comment. Ça peut être intéressant d'aller voir chez les stoïciens parce qu'ils sont très explicites sur cette dimension thérapeutique de la philosophie. Ils disent d'abord que toutes les émotions qu'on a, elles sont fondées sur des jugements. Si par exemple je trouve que la mort est triste, mais c'est que j'ai un jugement typé qui apparente la mort à quelque chose de triste. C'est pas la mort elle-même qui est triste, la mort c'est un événement, voilà. C'est le jugement que je porte sur la mort, et il peut être autre. autre, ce jugement. Il est probable qu'ici, dans la salle, il y ait des jugements différents sur la mort, selon les vécus. Peut-être que vous avez vécu des expériences traumatisantes qui fait que votre jugement est beaucoup plus douloureux et génère beaucoup plus de tristesse. Mais peut-être que vous avez vécu des expériences de décès qui ont été particulièrement sereins et qui vous amènent à juger que la mort n'est pas quelque chose de douloureux ou de triste. Donc l'émotion, elle est suscitée par un certain jugement. Donc si vous travaillez sur votre jugement, si vous travaillez à peser les raisons que vous avez de juger les choses comme vous les jugez, bah vous vous retrouvez aussi une certaine mainmise sur vos émotions. Si vous voulez, c'est le pari inverse de la psychologie. On considère beaucoup plus une sorte de priorité de l'émotion sur le jugement dans la psychologie. Vous êtes ému par quelque chose et puis ça vous amène à juger. Mais là, c'est l'inverse. C'est vous jugez les choses et c'est parce que vous les jugez ainsi que vous êtes ému, que vous êtes en colère parce que vous avez jugé que tel geste était une offense. Mais dans le fond, tel geste, peut-être qu'un autre le jugera tout autrement et éprouvera donc une toute autre émotion. Vous voyez, c'est sous cette forme-là. Ça veut dire que dès que vous faites un travail sur vos jugements, un travail qui est avec cette image de la main, il y a les choses que vous jugez en toute certitude. C'est comme un point fermé. Je suis certain de certaines choses, là, sûr. Mais il y a certaines choses où la main est un peu plus ouverte, là. Je suis moins certain. Est-ce que vous arrivez à évaluer la force de conviction que vous avez dans vos jugements, d'abord ? Est-ce que vous êtes certain d'une chose ? Est-ce que vous êtes vraiment certain ? Et puis, est-ce que vous arrivez à moduler le degré de certitude en ayant évalué, justement, ce jugement-là ? Est-ce que vous avez raison d'être certain de ça? Ou est-ce que vous devriez au contraire être moins certain et avoir à l'égard de cette opinion-là, de ce jugement, voilà, quelque chose qui s'ouvre un peu et qui se dit « Ouais, là, je ferais mieux de ne pas m'endormir sur mes certitudes. » Alors, sur les effets thérapeutiques de ça, il y a d'abord le simple effet de compréhension. C'est dès que vous comprenez que vous avez jugé de cette façon-là, dès que vous avez une distance par rapport au jugement que vous avez porté, et que vous comprenez que ce n'est pas la situation elle-même qui comporte ce jugement, mais que c'est vous qui l'a jugé comme ça, ben, il y a quelque chose qui est apaisant, il y a quelque chose qui se dénoue. Si vous comprenez pourquoi vous êtes monté sur vos grands chevaux, voilà, ça va tout à coup être beaucoup moins compliqué. Alors il y a aussi cet effet apaisant, et je trouve que c'est intéressant de se formuler comme ça, des sciences. C'est considéré par exemple qu'il y a dans la connaissance scientifique du monde, particulièrement dans la connaissance astronomique, connaître les mouvements des astres, comme voir les choses de tellement loin, il y a quelque chose de très apaisant. Sénèque, qui est donc stoïcien, tout à la fin de sa vie, il écrit des questions naturelles. On pourrait même dire qu'il n'écrit plus que ça. Mais alors il dit la raison, et qui est une raison thérapeutique, c'est qu'il voudrait avoir l'âme au bord des lèvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être prêt à mourir. Je suis vieux, il est temps que je m'apprête à mourir, et comment est-ce que je vais m'apprêter à mourir ? Eh bien c'est par un certain rapport à la connaissance que je vais connaître le monde, mais dans sa généralité la plus grande. C'est comme une variation du point de vue. Au lieu de regarder les choses de tout près, là, je vais les regarder de tellement loin que ça va produire un effet d'apaisement et comme me permettre d'avoir l'âme au bord des lèvres, pouvoir quitter cette vie serein. Parce que d'une part, j'aurais vu que je ne suis qu'une petite fourmi dans un immense monde, qui finalement c'est pas bien grave si je meurs. Et d'autre part, j'aurais vu la chaîne de causalité. C'est que les choses s'enchaînent, tout est causalement déterminé. Et ma mort, elle est causalement déterminée comme des tas d'autres événements. Et voilà, elle fait partie d'un grand tout de chaînes de causes où les choses s'articulent les unes aux autres. Et si j'arrive à voir ça, bah, tout à coup, ça va aussi me... Voilà, c'est considérer que les émotions qu'on traverse sont très fortement liées au point de vue qu'on adopte sur le monde, à la fois au jugement qu'on porte et à la proximité ou au contraire l'éloignement avec lequel on regarde les choses. Donc on fait ça parfois dans des ateliers de philo, je propose ça, des exercices comme d'accommodation du jugement. Essayez de regarder quelque chose de très près, vous êtes englouti dans cet événement, par exemple un incendie, vous êtes dans l'incendie, vous voyez les flammes, vous sentez la chaleur, vous entendez des gens crier, vous êtes dedans. Comment est-ce que vous... enfin, dans quel état êtes-vous ? Et puis vous regardez cet incendie, mais de très très loin, c'est de l'autre côté de la planète, vous n'avez pas vu d'image, vous entendez vaguement parler, vous voyez une chaîne de causalité, parce que l'incendie, elle est suscitée par cela, elle s'explique. Et vous voyez comme l'état n'est pas du tout le même. Je trouve que c'est intéressant aussi par rapport au journalisme contemporain, qui est toujours un journalisme de la vue de près. On vous montre toujours les corps gesticulants, les flammes, les cris, tout ça. Mais voilà, c'est aussi un effet d'éducation aux médias de se dire « stop, c'est une question de perspectives, de points de vue, mais il est possible d'accommoder le regard et de regarder les choses de très très loin et de mesurer l'impact que ça fait émotionnellement. Voilà, je ne sais pas si je vais... À mon avis, non. Hein, voilà, je me disais bien que j'avais parlé beaucoup trop de temps. Donc je vais vous laisser un petit quart d'heure de questions, réactions, en m'excusant d'avoir été aussi long aujourd'hui. Alors, moi je dirais une chose, sur le journalisme, il y a l'inverse, la pression chronométrique inverse, je disais, c'est-à-dire le journalisme, c'est un temps de parole extrêmement bref et il faut bourrer le maximum de choses sur le temps de parole extrêmement bref. Autrement dit, il n'y a pas de pensée pible face à un journaliste. Il y a des philosophes qui refusent d'aller s'exprimer dans les médias. Bourdieu a analysé juste la façon de fonctionner des médias en disant « ce n'est pas fait pour les intellectuels, c'est fait pour se donner un espace où problématiser quelque chose, il demande un certain temps. » Voilà. C'est le flash. Alors sinon, je distinguerais deux choses dans la parole. C'est pas, y a une dimension effectivement psychologique de la parole libératrice. Et c'est pas du tout la même chose que la dimension politique de la parole. Il y a un livre qui me paraît intéressant, Sonnet, qui s'appelle « Les tyrannies de l'intimité ». Oui, il diagnostique justement une société de la parole intime, de la confession, de la révélation. Le fait même que, par exemple, dans les médias, on juge de la valeur d'un homme politique, non pas à ses actes, à ses décisions politiques, mais plutôt à son authenticité. Il prenait l'exemple de Nixon et de son discours chien, la après-guerre. C'est-à-dire, au lieu de parler de ce qu'il avait fait, il a parlé de ses intentions. Il a parlé de sa vie de famille et de son chien. Il a pleuré, il a versé une larme. Voilà, tout un dispositif qui fait passer le privé, l'intimité, l'intention, plutôt que les faits, les gestes, les actes publics, et une dimension tout à fait politique de la parole, qui n'a rien à voir. Oui, c'est aussi le fruit d'une société qui fait de l'authenticité la première des seules à la juge, y compris le domaine politique, alors qu'on pourrait juger le domaine politique sur les choix à faire, les alternatives. C'est là qu'il y a des débats. On se dit qu'il y a des choix. C'est pas quand les choses sont aussi dites de l'expert, il n'y a jamais de choix. C'est toujours l'expert qui a déterminé le meilleur choix de débat. Effectivement, moi je dirais juste que la philosophie ne me semble plus nécessaire dans une société où il n'y a pas de débat, où il y a peu, parce qu'elle est susceptible d'amener du débat. Et donc, de l'addition là où les choses vont. Elles sont décidées dans l'indifférence, sans qu'on ait même vu quel type de problème, quel type d'alternative, diagnostic. Oui. Alors, il n'y a pas d'institutionnalisation de ces pratiques-là. Il y a des pays où c'est obligatoire. Et c'est le cas en Norvège, en Australie, au Québec. Voilà. Alors, c'est évidemment pas du cas en Belgique. Philosophie, on peut passer une vie entière, une vie scolaire sans tout, c'est tout à fait probable. Donc, de ce point de vue, on n'est certainement pas en avance. Par contre, il y a des inspecteurs philosophiques, donc de morale ou bien de religion, qui sont des férus, particulièrement de Lippmann, qui, disait Lippmann, un immense succès. On peut dire la Belgique, elle est principalement lippmannienne. C'est juste si on méprise absolument les autres, d'où mon intérêt, moi, à parler, à aller trop dans le sens l'élection d'une méthode des autres. Donc des inspecteurs qui obligent plus ou moins de pression, les profs des cours concernés suivent journée de formation, donc c'est côté de la formation nue que je joue. Il y a des structures aussi, des ASL existent ici à Mons, il y a Phare, Lippmann aussi, à Bruxelles il y a Philomène, avec une revue Philo pour Phileas Bull qui existe, Lippmann aussi, à Liège et Philocyte. Et c'est des associations qui font comme des petites bulles, disons, font de la formation continue, qui font des animations dans les écoles où il y a des projets philosophiques en place. Mais ça n'a pas cet aspect institutionnalisé qui permettrait d'avoir une formation en amont que tous les dites. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui résiste fondamentalement en Belgique, c'est les querelles de chapelle, laïques, confessions distinctes, faire un tronc commun. Toute la question, ça veut dire quoi, un tronc commun philosophique à former à la fin. On peut vite mettre tout et n'importe où, c'est déjà ce qu'on court philosophique. Donc ça, c'est niveau du second. Après, du primaire, jamais en parler, permettre un détachement. Donc détache prof, segment, lui demander d'aller animer. C'est très favorablement aussi un autre favorablement à qu'on vient à Liège, université de Liège, certif université en pratique philosophique. Il y a peut-être un enjeu à instituer d'un côté académique, de l'autre côté pratique. Et proposer une formation, universitaire. Voilà ça, grand bravo, zéro financement. Oui ah. Non, et il y a d'autres, en moins que l'UNESCO fait des enquêtes, il arrive régulièrement des enquêtes sur le niveau de la philosophie dans le monde. Par exemple, ce qu'elle constate, un net recul de la philosophie au profit des matières immédiatement professionnalisées, plus techniques. Donc, on fait beaucoup plus de sciences économiques, beaucoup moins de philosophie maintenant. Donc on a supprimé des tas de philosophies. Alors le problème, c'est qu'il y a aussi une réponse des philosophes où les façons de faire sont aussi mises en... Par exemple, le bac philo en France, c'est une catastrophe. Ça dégoûte absolument l'immense majorité des élèves. On peut pas non plus valoriser la philosophie si la philosophie est une qui dégoûte. Donc il y a des façons de faire qui doivent absolument établir sur le plaisir et pas ça, l'exigence, indépendamment de la conquête d'un plaisir à l'exigence. C'est ça le pari compliqué. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, en général, la politique, elle est partir des questions existantes. Par exemple, les profs nommés, son salarié à vie, commission avec la formation. Puis comment va-t-on accommoder ça? Ben, le modèle idéal, il s'envole. Rien faire, des micro-accommodations. C'est comme ça que ça se discute. Si on pouvait faire table rase, on dirait à partir de maintenant, on engage formé aux méthodes d'animation. Mais on ne peut pas faire. Les profs qui sont là, et voilà, on veut ménager les susceptibles, les carrés. La politique. Ben, disons politique, il y a politique politicienne et puis justement les débats qu'il faudrait avoir, les options fondamentales qu'il faut prendre des parts de la politique. Dans cela, en général, la cuisine, disons. Mais ça demande une modification de la constitution. Oui, mais c'est dans la constitution. L'obligation d'organiser un enseignement religieux, alors ça se justifiait, je trouve, d'une façon, c'était responsable, c'était de dire justement la société vers l'école, un rôle d'éducation qui permette de faire un écart, le dogmatisme qui est transmis à l'intérieur d'une famille, et qu'il puisse y avoir juste cet écart, l'école, les pouvoirs, une certaine distance. Alors déjà, tout à fait ça qui fait, ça dépend un peu. Disons qu'il y a des cours de religion qui sont dogmatiques. D'éducation religieuse permis à être dans un milieu absolument verrouillé du point de vue dogmatique religieux, d'avoir un peu d'air, prendre un peu de la religion. C'est très problématique, à moins de formation musulmane, si je fais ça, mes parents viennent me casser la face. Il y a une attente, parfois, qui est vous avez une mission que vous ne pouvez pas négliger. On supprime. Oui ? À l'organiser dès qu'il y a une demande. Mais ça. C'est marrant, vous remarquerez que s'il n'y a que des hommes qui ont, sur le mythe de la femme bavarde, si, il y a moi, oui.
J'ai écouté tout le monde, un coup d'intérêt, une année à prendre le changement en eux aussi. Essayons de leur parler de tout, peut-être aussi. Si on les ouvre, tardeur à qu'un enfant est sans bien épuisance.
Ben disons que ce n'est pas de la diction philosophique. Par contre, il y a juste intérêt à avoir une philosophie, c'est-à-dire qu'ils dans leur caprice une analyse de leur, ce qui est peut-être un peu plus. C'est pas un moment de négociation non plus de liberté, se borne leur plaidir. Au contraire, il doit y avoir un peu. C'est pas tout à fait dans ce. Oui, oui. La série des avis. Oui. C'est similaire à la bêtise du formateur où il y a des gens formés à voilà un contingent. Mais c'est relativement. Alors, les résultats, ceux de Caen et de Geneviève, je n'en sais rien. Donc, je que dans le cadre de lutte contre la violence, on a c'est juste dans toute la province de la formation continuée obligatoire à l'animation de discussion Lippmann, toujours, et où on suit ça de très près, des comptes rendus mois par mois que doivent faire les profs de leurs ateliers. Et on se pose l'action justement du civisme des élèves, de phénomènes de bagarre. On n'essaye pas les zones d'éducation où la violence, le premier réflexe. Donc on mesure ça, et effectivement, il fait évident lutte, le recours à la vie. Dès qu'il y a ce langage qui permet de donner d'analyser une situation. Et alors, il y a une autre analyse de team. La team, c'est le compte sur les habiletés de pensée et où on mesure l'évolution de la pensée des enfants, tout avec les éléments métacognitifs, c'est-à-dire tous les éléments qu'ils ont de conscience de toutes les fois où ils commencent en expliquant ce qu'ils vont, pourquoi ils vont. Et ça, de nouveau, c'est aussi assez évident. En une dizaine d'ateliers de philo, il y a déjà des réflexes de. Et alors moi j'ai suivi en ligne de l'université de Laval au cours d'observer enfants et c'est assez frappant de voir des gamins temps on peut commencer une phrase disant moi là je voudrais faire une analogie et une analogie mais comment est-ce qu'ils articulent un peu analogie en fait c'est très bien ce que c'est une analogie qu'ils ont fait un exercice des analogies ils voient tout à fait intérêt de faire une analogie c'est de penser autrement le problème et voilà je trouve ça assez remarquable en fait de voir effectivement cet effet Pygmalion dont je parlais c'est-à-dire l'effet non seulement sur la structuration de la pensée, sur la conscience réflexive et sur l'acquisition du langage. Parce que vraiment, il y a une précision et une rigueur qui peut se créer, qu'on est obligé de nuancer les termes, de le finir, de se mettre d'accord avec les autres, qu'on en termes, et c'est pas mal. De nouveau, plutôt que de préciser une certaine capacité langage, voir quels effets produit le poste, ils ont suffisamment de bagages langagiers, et voir que ça a un effet sur la rigueur du langage, la précision. Ouais. Et pas seulement qu'on se trouve que y a... Et je peux dire que je vis ça dans les... Alors pas dans les ateliers où c'est une fois, où il y a une exposition, ou une pièce, un atelier, fassion. Si on allait là, du soulage, parole, mais crée rien. Des cycles d'au moins une dizaine, c'est minimum. Oui, alors là, on voit seulement le groupe qui se situe autrement, parle de choses qui... Le plaisir pris. Comme je disais, sur les maths, il y a un effet immédiat de compréhension, d'intérêt. Oui, parce que ça... Est-ce que les nombres existent ? Des trucs passionnants en plus. Hein. L'infini, oui, voilà. L'infini, c'est super. L'infini. Oui. Je demanderais à une femme de parler. Oui, il y a des pays où on est sous cette modalité. Au Brésil, on essaye de faire non pas un cours spécifique, mais quelque transversal à toutes les disciplines, en imaginant tous les cours. On pourrait faire, là, ça demande une formation. Mais je pense qu'ils ont prévisé fondamentalement la dictature. Il y a eu vraiment... La philosophie a entièrement été repensée comme à neuf. On n'avait pas cet effet d'accommodement des anciens. On commence à zéro, là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est des marges pour penser autrement l'interdiscipline. Il est l'heure. Merci.